La checklist podcast sur Blueprint.
Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans ce second épisode de la Checklist Podcast. L'objectif de ce format, démystifier le podcast sous tous ses aspects, distribution technique, animation, etc. Le tout en 30 minutes ou moins par épisode, en tout cas en théorie, vous l'avez vu la dernière fois, ça nous a pris un peu plus de temps. Avec moi mes amis de Blueprint, mais pas que, bonjour Greg.
Bonjour Yann.
Avec nous également Franck.
Bonjour.
Et enfin, un nouveau venu dans la Checklist Podcast qui vient compléter cette équipe habituelle qui fait partie maintenant de la core team de la Checklist Podcast, Thomas.
Zbra ! Bonjour.
Alors, il faut expliquer quand même à tout le monde que quand il est arrivé sur Discord, il a dit Zbra. Quand il est arrivé dans le bon salon sur Discord, il a dit Zbra. Donc, je crois que c'était naturel qu'il nous dise Zbra au moment d'être introduit dans cette
C'est pour donner un peu d'énergie, tu vois, parce qu'aujourd'hui, il en faut pour aborder le sujet d'aujourd'hui.
On va parler de Spotify, il est vrai. Mais avant de se lancer là-dedans, je précise que tu es à la tête d'un site internet qui s'appelle bagro.fr, sur lequel on retrouve un podcast depuis de nombreuses années.
Plus de 10 ans maintenant, effectivement.
Donc tu es là aussi un habitué de la chose, les jeux vidéo de baston. Alors on peut penser notamment au Street Fighter, mais aussi à tous ces ersatz, si ça vous intéresse, bagro.fr. Cette émission, c'est aussi la vôtre. N'oubliez pas la checklist @blueprint.pm pour vos questions qu'on prendra du coup au prochain épisode. Lançons-nous donc dans le sujet d'aujourd'hui, et ce sujet, c'est Spotify. Alors un point de contexte général pour commencer, premier chapitre, si votre application de podcast gère les chapitres, n'oubliez pas ça, c'est très pratique, ce qui n'est pas le cas de Spotify d'ailleurs, ironiquement. Pourquoi est-ce qu'on parle de Spotify vis-à-vis du podcast? Ça fait depuis 2019 en gros que Spotify s'est lancé là-dedans. En vrai, l'intégration des podcasts date un petit peu plus, puisqu'à la base c'était une plateforme sur laquelle seulement des gens triés sur le volet pouvaient ajouter leurs podcasts, ou vous voyez leurs podcasts ajoutés, depuis on peut les ajouter spontanément. En tout cas depuis 2019, Spotify a lourdement investi dans cet espace-là, plus de 500 millions de dollars rien que sur l'année 2019, donc avec le rachat d'Anchor, qui est une application mobile qui permet de produire et distribuer ses propres podcasts, l'achat aussi de Gimlet, un studio de podcasts qui était auparavant indépendant et qui désormais donc leur appartient, même si leurs formats sont pour le coup à la fois diffusés sur Spotify et sur les autres applications de podcasts, mais aussi de Megaphone. Vous avez probablement déjà vu le logo de Megaphone quelque part si vous écoutez des podcasts anglophones, puisque c'est eux qui gèrent une partie de la pub, de l'ad tech, donc de la distribution, gestion de la publicité, mais aussi de la distribution de podcasts pour des podcasts comme, par exemple, je crois, ceux de Slate, pour ne donner que cet exemple.
Ils sont partout, Vox Media, Slate, Wall Street Journal, je crois que c'est, Bloomberg aussi,
ESPN, c'est un acteur très important.
Ils sont partout.
Effectivement. Et donc, sur la question de rien que la distribution, c'est-à-dire l'aspect où les podcasteurs ne pouvaient pas directement y entrer et maintenant peuvent proposer leur show comme ils voulaient, comme ils veulent, c'est le cas désormais. Greg, tu voulais réagir?
Oui, en fait, je voulais réagir par rapport à mon expérience personnelle avec Spotify, parce que j'ai dû ajouter beaucoup de podcasts de mon média à l'époque. Et en fait, par rapport à Apple, on en a déjà parlé lors du premier épisode, c'était pas très jojo au niveau de la configuration et au niveau de l'ajout de show, mais ça restait vivable. Spotify, c'est vraiment, je trouve, un enfer au niveau des codes à rajouter dans l'XML, ça va, mais après, pour la validation, ça peut parfois prendre plusieurs jours sans raison, ça peut parfois aller directement sans raison, et aussi, j'ai eu plusieurs fois le cas où le Spotify ne veut plus récupérer le fichier RSS et donc ne veut plus actualiser le podcast sans raison. Et même si je le supprime et que je l'ajoute à nouveau, il ne voudra plus reprendre le flux RSS, et vraiment sans raison, parce que sur toutes les autres plateformes de podcast, ça fonctionne très bien. Et donc, je ne me l'explique pas. J'ai déjà demandé aux équipes de Spotify ce qu'il en était. Je n'en sais rien. Et voilà, ça reste un peu un gros mystère technique. Comment Spotify gère un peu ses podcasts et l'ajout des flux RSS sur sa plateforme.
C'est vraiment curieux que tu le relèves comme ça, parce que j'ai eu l'occasion d'ajouter des podcasts sur Spotify, notamment avec Radio Kawa à l'époque. Et j'ai trouvé l'ajout de podcasts sur Spotify extrêmement simple, extrêmement rapide, probablement la meilleure de tous tout le marché en tant que podcasteur. Tu vois, je suis pas forcément pour qu'on aille sur Spotify, mais je trouve que quand tu y vas, ça marche très bien. Donc merci d'avoir fait ce retour d'expérience là, parce que la seule chose que nos auditrices et nos auditeurs auraient entendu si tu n'avais pas réagi, c'est moi qui dis c'est génial. Bah apparemment, il peut y avoir des problèmes suivant où ou comment on héberge son flux podcast. Spotify peut être vraisemblablement plus tatillon dans certains cas.
Je pense que voilà, c'est différent ici. Oui, de mon côté, c'était hébergé sur mon média. Est-ce que c'est mon média que Spotify ne voulait pas. Voilà. Mais c'est un peu erratique à ce niveau-là.
Et je réponds implicitement à Thomas dans le conducteur qui demandait si les fichiers audio étaient réhébergés par Spotify. C'est effectivement le cas, contrairement à plein d'autres applications de podcast. Spotify prend un peu la méthode de Netflix, c'est-à-dire pour assurer une meilleure distribution des contenus, en tout cas c'est leur point de vue, ils réhébergent le contenu des MP3. Par contre, évidemment, ils ne le font que sur les podcasts qui sont listés dans le catalogue. Et pour être listé dans le catalogue, il faut avoir proposé son podcast à Spotify, donc il n'y a pas de situation d'opt-out. C'est uniquement de l'opt-in, c'est-à-dire vous choisissez d'être sur Spotify et du coup, vous choisissez que vos fichiers soient réhébergés, que les MP3 soient réhébergés sur les serveurs de Spotify. C'est pas forcément une pratique avec laquelle on peut être d'accord, il y a des diversités d'opinions sur le sujet. Par contre, il est clair qu'on a la liberté ou pas de le faire suivant si on veut être sur Spotify ou pas. Depuis 2020, maintenant, on avance d'un an, on a vu naître les premiers gros contrats d'exclusivité. Certains en sont déjà revenus, que ce soit parce que Spotify jugeait que le contrat d'exclusivité n'était pas à son avantage et que l'émission rapportait pas assez, ou de l'autre côté que le podcasteur estimait que Spotify se fichait un petit peu de sa gueule. Pour le coup, ça, j'ai été grossier sans le vouloir, désolé.
Oui, dis donc.
Waouh, Yann, il est énervé sur le sujet de Spotify. C'est vrai. Le cas de Joe Rogan est quand même assez marquant, parce que Joe Rogan est un podcasteur très 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 écouté outre-Atlantique et pour le coup a signé un contrat d'exclusivité pure pour Spotify avec à la fois de l'audio et de la vidéo, puisque le podcast de Joe Rogan était également filmé et publié sur YouTube. Un contrat qui est chiffré par des médias sérieux comme par exemple, là je crois que c'est le Wall Street Journal qu'on va linker sur la page de l'épisode, à plus de 100 millions de dollars. Franck, tu voulais réagir là-dessus?
Oui, alors le cas de Joe Rogan est un cas assez particulier, entre guillemets, puisque, ceux qui ne connaissent pas Rogan, moi je le connais depuis très longtemps via son émission, c'est un podcast qui se dit ouvert et discutant de tous les sujets, de
tous les
bords
politiques. C'est un podcast d'interview où il reçoit généralement une ou deux personnes, ouais.
Voilà, il reçoit une ou deux personnes, parfois trois, c'est très rare. Généralement, c'est un podcast. Alors, c'est pas un podcast politique entre guillemets, parce qu'il ne reçoit pas souvent d'invités travaillants ou du moins officiants à des postes politiques. Mais c'est un podcast qui est très axé. On veut entendre tout le monde, on veut recevoir tous les points de vue, machin.
Ce qui en soit une position politisée, notamment à partir du moment où tu commences à recevoir des gens. Ont des opinions très proches de l'intolérance, pour le formuler comme ça.
C'est ça. Le problème de Rogan, c'est justement là où j'allais en venir, c'est que Rogan a une certaine propension à tolérer l'intolérable et à vouloir l'entendre, en tout cas, parce que il faut discuter sur le débat des idées. Et Rogan a une... Bon, déjà, il avait déjà un empire. Le Joe Rogan Podcast Experience existe depuis... Je n'ai même pas le nombre d'années que ça existe.
Une énorme machine. Il publie énormément de contenu.
Plus de 10 ans. Comme tu le disais, Yann, ça existe en vidéo. C'est-à-dire que les extraits sont diffusés sur YouTube. Certaines anciennes émissions sont diffusées aussi sur YouTube. Pas toutes, parce que généralement, il passait par son...
Le fameux extrait, oui, Greg, tu allais dire, de Elon Musk.
Elon Musk,
par exemple, Elon Musk qui fume son joint, oui. C'est évidemment, c'est pour le buzz et tout ça. Le rachat de Rogan, moi, m'a posé fondamentalement problème, en fait. On a parlé d'une somme de 100 millions, certains l'estiment à même plus de 120-130 millions de dollars. C'est une somme monstrueuse pour un podcast qui, de base, ne génère pas ça par an, quoi qu'il arrive.
Oui, mais ça, c'est plus le problème de Spotify à double titre que celui de Rogan. En soi, Rogan, il a cash out, il a récupéré une somme incroyable de pognon grâce à ça.
J'allais y venir. Rogan fait plusieurs millions de dollars avec ses podcasts, ses produits dérivés, le reste, ça, c'est pas un problème. On est dans une période sur, par exemple, un podcasteur comme Joe Rogan, sur un système de valorisation, en fait, exactement comme la valorisation qu'on peut retrouver en bourse pour des startups qui génèrent un chiffre d'affaires assez ridicule et qui se retrouvent valorisés à plusieurs dizaines de milliards de dollars parce que des investisseurs ont mis de l'argent dessus. C'est, à mon sens, faire augmenter une taille de bulle. donnant une fausse idée de la valeur de beaucoup de podcasts à des investisseurs. Et ça, sur le plan business, c'est un gros problème parce que on dit Joe Rogan, il vaut 100 millions de dollars. Ok, tu regardes son show, il n'y a pas un centième dans la prod.
Et surtout, est-ce qu'il vaut 100 millions de dollars enfermé dans une app où tu peux l'écouter nulle part d'autre?
Voilà. Et c'est là que tu réfléchis à la question du ciblage. Mm. C'est là que tu réfléchis à la question du ciblage. Et Spotify n'a pas toujours été, comment dire, en bon terme avec certaines franges, notamment conservatrices aux États-Unis, qui défendaient évidemment les maisons de disques et le reste. Et le rachat de Joe Rogan a un petit peu tassé ce genre de choses, parce qu'on en parlera tout à l'heure certainement, mais les pratiques, les malpractices en anglais de Spotify, les mauvaises pratiques de Spotify en français, auprès des maisons, avec les maisons de disques, hein, mais pour les artistes, sont en train de se reproduire assez drastiquement du côté des podcasteurs, avec un traitement des podcasteurs qui est qu'actuellement, si tu ne monétises pas ton podcast sur Spotify, la publicité diffusée entre tes podcasts ou entre les émissions écoutées ne va pas dans les poches des podcasteurs qui participent à l'éditorialisation du podcast sur Spotify.
Parce que Spotify considère que c'est son service qui met également de la musique à côté et que cette publicité-là va financer ça. On n'est pas nécessairement d'accord avec cette ligne de pensée de la part de Spotify, mais c'est leur post-justification.
Disons que dans un monde où la loi est relativement respectée, il y a des droits d'auteur et si tu fais une application commerciale d'un produit culturel soumis à droit d'auteur, tu dois payer la personne qui fait ce produit-là.
Oui, mais tu choisis volontairement de mettre ton podcast sur Spotify. Encore une fois, tu peux ne pas être d'accord avec la façon dont fonctionne le business de Spotify, mais le fait que Spotify passe des publicités aux auditeurs non premium de l'offre, c'est quelque chose qui est publiquement connu, c'est pas quelque chose de caché.
Non, c'est pas quelque chose de caché. Ce que je veux dire par là, c'est que n'importe quel artiste indépendant peut mettre sa musique sur Spotify et qu'il ait une maison de disques
ou pas, récupérer des clopinettes.
Touchera des micro-centimes. Oui. C'est une autre histoire de Spotify, mais touchera des micro-centimes de chaque écoute qu'un podcasteur ne touchera pas.
Oui. Le modèle de rétribution pour les artistes de Spotify, on va pas aller dans le détail parce que c'est pas la checklist
mais c'est concomitant, on va dire.
Oui, bien sûr, parce que logiquement, parce que cette entreprise-là, elle a l'habitude de faire ça avec ses créateurs de contenu-là, donc c'est normal que, enfin, c'est normal, c'est compréhensible en tout cas que ce soit son premier réflexe de profiter également des podcasteurs. Thomas, on va aller vers toi sur un autre sujet, toujours dans le contexte général de Spotify, qui est, alors, quand on voit justement ses rachats depuis 2019 et ses exclusivités depuis 2020, on voit que Spotify veut être partout, veut être verticalement intégrer le monde du podcast, c'est-à-dire vraiment contrôler un peu toutes les différentes étapes, que ce soit création de contenu, distribution, publicité, il y a même l'ad tech, enfin il y a tous ces aspects-là qui rentrent en compte quand on regarde les différentes entreprises qui a désormais avalé Spotify. Et donc du coup, on est sur une approche de monopole incontournable où Spotify pourrait, s'ils arrivent à obtenir un nombre critique d'auditeurs, devenir la plateforme principale comme l'est aujourd'hui YouTube pour la vidéo. Et tu voulais réagir à ça?
Bah, en fait, c'est très simple. On parlait de 100 millions donnés à Joe Rogan. Dans les faits, le problème de ce genre de plateforme comme YouTube, pareil pour la musique, en fait, c'est que c'est des plateformes qui coûtent extrêmement cher à maintenir, à fabriquer, et même ne serait-ce que du point de vue légal, on le voit par exemple avec la gestion des droits musicaux ou ce genre de choses, que ce soit sur YouTube d'ailleurs ou sur Spotify. Donc le seul moyen pour ce genre de plateforme de vraiment faire de l'argent, bah, c'est d'être tout seul. C'est d'être le gagnant, en fait. Il ne peut en rester qu'un à la fin. C'est le cas pour les moteurs de recherche, c'est le cas pour les sites de vidéos, c'est le cas aussi pour quasiment tous les réseaux sociaux, même s'il y en a plusieurs. Facebook est quand même extrêmement toujours très dominant. Et si on part après dans des micro-trucs, voilà, par exemple, on a TikTok pour la vidéo, on va avoir Instagram pour la photo, etc. Le but, en fait, de ce genre de boîte, clairement, c'est d'investir à perte, de façon, en fait, soit à écraser ses concurrents, soit en les rachetant, soit tout simplement en les traînant dans la boue ou en allant plus vite qu'eux. Et pour ça, généralement, ça ne fonctionne que si il y a ce qu'on appelle l'effet réseau. C'est la même chose que quand nos auditeurs, j'imagine, ont voulu faire passer toute leur famille de WhatsApp à Signal et que tout le monde leur a dit « Ah ouais, mais moi, j'ai pas envie de changer » et donc on n'a pas changé. C'est l'effet réseau, c'est-à-dire qu'il faut que tout le monde vienne pour que tout le monde vienne. Mmh. Voilà, c'est le paradoxe du truc, mais c'est ça. YouTube, c'est la raison pour... Enfin, aujourd'hui, vous cherchez une vidéo, est-ce que vous la cherchez sur Google ou vous la cherchez sur YouTube ? Tu vois, tu te dis pas, je vais aller sur Dailymotion trouver une émission, ça n'existe pas. Donc du coup, voilà, il y a aussi ça à prendre en compte, à bien retenir, c'est que toute la stratégie et ce que fait Spotify, les mouvements qu'il opère dans le podcast, tend en fait à pour objectif de devenir ce monopole, tout comme tous les gros de la technologie aujourd'hui sont des monopoles en gros. Et d'ailleurs c'est un plan, bon c'est un autre sujet, mais c'est un plan qui n'est peut-être pas une si bonne idée que ça en vrai, vu ce qui se passe outre-Atlantique actuellement avec la question justement des monopoles dans la technologie.
La question, c'est jusqu'où va s'arrêter la volonté de casser ces monopoles là est-ce que c'est juste l'App Store d'Apple, ou est-ce qu'on va descendre jusqu'à Spotify et dire non mais est-ce que vous n'êtes pas en train d'essayer de constituer un monopole également dans ces espaces là c'est une vraie question. En vrai, le législateur, généralement, il attend qu'il y ait un monopole pour ensuite le casser. Dans le cas de Spotify, je pense pas. Peut-être sur le cas de la musique, mais c'est encore différent parce que d'un côté, t'as Apple Music, t'as Tidal, etc. Et YouTube Music, tu peux dire qu'il y a une véritable concurrence. Il y a également Amazon qui a son propre service qui tourne sur les enceintes connectées Alexa. Donc, désolé si je l'ai activé en disant ça chez vous d'ailleurs, et que vous nous écoutez sur haut-parleur. Mais toujours est-il, oui, il y a cet aspect-là qu'il faut prendre en compte. Tu as tout à fait raison de le souligner. Moi, ce que je remarque au-delà de ça, c'est qu'évidemment, si Spotify se met à contrôler une part suffisamment large de cet espace, et notamment vis-à-vis de la répartition des revenus publicitaires, on va avoir à l'échelle, au niveau plus large, une réduction de l'espace de l'écosystème ouvert, mécaniquement, puisque des gens iront écouter des contenus exclusifs dans Spotify, donc passeront moins de temps sur l'écosystème ouvert du podcast. On verra une baisse des revenus publicitaires, puisque Spotify servira d'index. De ce côté-là. Exactement. Et à garder en tête également que ça baissera chez Spotify. Pourquoi ? Parce que ces publicités seront vendues en lot, pas directement en regardant un petit peu quel type de contenu, quel type de public a un podcasteur, un podcast, mais que ce sera établi comme ça. Et évidemment, avec l'insertion dynamique, il sera aussi possible pour les publicitaires d'optimiser à qui ils s'adressent dans votre propre public. Est-ce que c'est des gens qui sont géolocalisés ici ou là, de choisir et donc du coup de vous payer moins pour que ça leur rapporte plus, ce qui n'est pas tout à fait un deal très équilibré pour les podcasteurs, pour ceux qui gèrent le support sur lequel il y a cette publicité.
Oui, parce que les auditeurs le savent peut-être pas encore, mais actuellement la plupart des podcasteurs qui vivent du podcast, ce sont un peu des gens, c'est des gens qui généralement en fait sont tout seuls, c'est-à-dire ou en petits groupes, quoi, très petite société, et donc ils négocient directement avec les annonceurs. Par exemple, moi qui suis développeur, j'écoute, je sais pas, par exemple, un podcast qui s'appelle Syntax FM, qui est géré par deux personnes. Ils ont deux ou trois spots de pub par épisode et ils négocient eux-mêmes les spots de publicité. Mais si ils allaient sur Spotify, tout d'un coup, c'est plus leur publicité qui passerait, ce serait celle décidée par Spotify. Mécaniquement, comme il y a des intermédiaires qui sont rajoutés, et ben c'est exactement comme dans le milieu du livre, dans le milieu de la musique, c'est celui qui crée la valeur qui finalement touche le moins d'argent. C'est pour ça que les auteurs, par exemple, de bandes dessinées ne touchent pas d'argent, très peu d'argent avec les ventes. C'est pour ça que les musiciens touchent très peu d'argent avec le streaming, etc., etc. Celui qui produit est généralement celui qui se fait le plus bouffer par les intermédiaires, puisque c'est aussi souvent celui qui a le moins de moyens légaux de se défendre et de négocier des contrats, qui lui sont à son avantage. Donc voilà, il y a ça à prendre en compte. Et si vous avez un petit peu suivi, justement, on en revient à YouTube, si vous avez un peu suivi ces 15 dernières années ce qui se passe avec YouTube, vous avez vu passer de nombreuses fois ce qui a été nommé les adpocalypse, donc l'apocalypse de la publicité, où du jour au lendemain, eh ben des YouTubeurs voient leurs revenus coupés par exemple en deux, parce que YouTube a décidé de changer la manière dont la publicité va être rémunérée, à combien elle va être rémunérée, comment elle va être insérée, etc. Donc du coup, en allant sur une plateforme comme Spotify, certes, on peut profiter de l'effet réseau, mais en fait, on creuse sa propre tombe, puisque pour le coup, la société travaille pour elle-même, elle ne travaille pas pour les gens qui produisent le contenu dessus.
C'est tout le rapport où, oui, tu peux toucher 10% de plus de public, voire plus, suivant tes formats, suivant là où sont tes auditeurs potentiels, etc. Mais de l'autre côté, il y a cet effet pervers-là de tu laisses complètement... si tu passes par la tech de Spotify, en tout cas, et encore une fois, à ce jour, il est possible de ne pas passer à côté. Est-ce que ce sera encore possible, que ce soit en termes de pognon, parce que tout le marché se sera déporté ailleurs, ou que ce soit en termes d'autorisation de la part de Spotify à l'avenir, mystère. On verra bien. Pour l'heure, et c'est vrai que c'est pas quelque chose de très sympathique de spéculer sur quelque chose qui n'a pas encore eu lieu, mais il faut le garder en tête qu'en soi, oui, ils ont une dose de contrôle en plus que si vous ne travaillez pas avec eux en publiant votre contenu sur Spotify. Je tiens à souligner autre chose, deux autres trucs rapidement par rapport aux effets pervers d'une concentration possible du marché du podcast chez Spotify. Le premier, c'est l'adtech invasive. Puisque Spotify va savoir pas mal de choses sur vos auditeurs, notamment oui. La question de la géolocalisation, j'en ai parlé, l'utilisation de données sociodémographiques pour ensuite sélectionner un type de publicité, bêtement à la Facebook. On regarde votre profil et on établit quelque chose qui nous permet de dire bah voilà, on va balancer ce genre de publicité à telle personne ou à telle autre. Alors non seulement côté créateur, ça va réduire un petit peu au moins la valeur par publicité, mais de l'autre côté, pour les auditrices, les auditeurs, eh bien, c'est toutes ces données-là qui, du coup, sont utilisées pour vous mettre de la pub sous le nez. Ce qui n'est pas génial, ce qui n'est, à mon avis, pas un modèle très respectueux, simplement, de votre vie privée. Tu voulais réagir là-dessus, Thomas ?
Pour le coup, non. On est d'accord qu'on a déjà suivi un problème, justement, avec la récupération de données. On l'a d'ailleurs vu récemment avec Apple qui, avec sa mise à jour d'iOS 14.5, a décidé de laisser les gens choisir ou pas. Et d'après ce que j'ai lu récemment, seulement quelque chose comme 4 ou 8% des gens ont choisi de se laisser traquer. Donc, dans les faits, ça veut dire clairement que les gens ne veulent pas être surveillés, mais c'est probablement écrit dans les toutes petites inscriptions que vous ne lisez pas le jour où vous créez un compte sur Spotify. Du coup, il faut aussi le rappeler, on ne peut écouter les podcasts sur Spotify qu'en créant un compte aussi, ce qui est une grosse différence avec les applications de podcasts traditionnelles et qui est, je pense, justement, un des éléments qui fait que les applications traditionnelles se défendent encore bien. C'est que l'expérience utilisateur est bien meilleure, justement, à ce niveau-là.
Oui. Bien sûr, et je relève aussi que même simplement pour écouter des podcasts, enfin, je le disais au début, mais des chapitres dans Spotify, c'est pas supporté. Et il y a plein de petites fonctionnalités comme ça qui, malheureusement, ne fonctionnent pas et qui ne sont pas encore intégrées. Et on risque d'avoir le même problème qu'on avait vis-à-vis du web à l'époque où Internet Explorer était devenu un peu l'option hégémonique, c'est-à-dire que le progrès s'arrête. Il n'y a plus personne d'autre pour aller titiller Microsoft sur le côté navigateur web. Il n'y a pas encore de Firefox, Netscape est mort, etc. Ça non seulement donne la main à Microsoft de faire un peu ce qu'ils veulent avec le web, et de l'autre côté, en termes de progrès, il y a eu, toi je pense que tu connais bien justement Thomas cette histoire-là, il y a eu une pause dans l'histoire du web quasiment.
Bien sûr, en fait, à partir du moment où celui qui a le monopole, en fait, a le monopole, et aussi bien un monopole, enfin surtout un monopole technique, l'innovation en pâtit, évidemment. Et du coup, ça a mis du temps. Il a fallu quand même Firefox pour commencer à mettre un petit coup de pied dans la fourmilière, puis Chrome maintenant, etc. Et d'ailleurs, dans le domaine des navigateurs web, on revient à une situation monopolistique maintenant avec Google plutôt. Mais bon, c'est un autre sujet, mais tout ça pour dire que les positions monopolistiques sont souvent le seul moyen pour certaines sociétés d'être rentable en fait et de fonctionner finalement, puisque le but de ces sociétés, c'est pas forcément de faire de l'argent en vendant par exemple un abonnement podcast, même si c'est l'objectif, c'est que en utilisant finalement ce qu'ils savent sur vous, c'est-à-dire les données d'utilisation, ils peuvent les revendre, et à partir de là, plus il y a d'utilisateurs, plus il y a d'argent, même si ces utilisateurs ne sont pas des abonnés payants Spotify, ils ont tout de même une valeur. Donc, si tu deviens le premier, t'as les données de tout le monde, donc tu peux les revendre le plus. C'est toi qui peux en vendre le plus, donc c'est toi qui te fais le plus d'argent.
Tu gagnes sur les deux tableaux, à la fois publicitaire et d'abonnement payant, tout comme c'est le cas par exemple sur YouTube, avec d'un côté YouTube Red et de l'autre côté le marché YouTube publicitaire habituel. On connaît tous. Et encore une fois, ça n'empêche pas que des deals spécifiques existent. Typiquement, Franck, tu connais bien la chaîne YouTube Linus Tech Tips, qui a toujours un ou deux promos publicitaires sponsors en entrée et en fin de vidéo.
C'est pas toujours, mais oui, ils ont des
quasi systématiquement.
Oui, carrément, oui.
Et pour le coup, ça reste du deal entre l'un et l'autre. Mais c'est possible parce que YouTube le permet, l'autorise, et il faut que YouTube l'autorise pour que ça puisse avoir lieu. YouTube pourrait dire, bah finalement non, ça nous intéresse pas, ne faites plus de deal sans nous en parler, il faut que ça passe par nous, il faut qu'on prenne un pourcentage. Ce serait possible, théoriquement, que YouTube impose ça.
Alors c'est possible, mais de base, Linus a une particularité, comme beaucoup de YouTubeurs.
Il a sa propre Linus, plateforme.
Voilà, il a d'une sa propre plateforme, mais c'est au-delà de ça. Linus a son propre, sa propre régie, entre guillemets. Pour négocier les parts de revenus, pardon, entre, parce que YouTube, c'est par les revenus entre ce qu'il prend et ce qu'il donne aux YouTubeurs. Ça se négocie avec une régie. Tu n'es pas obligé d'avoir une régie, mais si tu veux un meilleur pourcentage, en fonction de ta croissance, il faut que tu négocies avec des régies. Différentes boîtes sont spécialisées là-dedans. D'autres,
c'est les MCN, je crois.
Les MCN en anglais. Voilà. Il y avait par exemple Machinima à une époque. Linus, il a le Linus Media Group. Donc du coup, il négocie directement avec YouTube.
Allez,
étant donné qu'il a un média groupe, il est considéré comme un groupe média par YouTube, et donc il négocie ces revenus-là.
Oui.
Et mais à côté de ça, YouTube ne peut pas l'imposer parce que c'est un moteur de YouTube aussi. Donc
c'est vrai, mais encore une fois, là, en donnant cet exemple-là, tu vois, on joue sur les deux tableaux. D'une part, oui, il gère ses pubs et oui, YouTube lui permet de gérer ses pubs. Et de l'autre côté, le fait que ce soit un si gros acteur fait que la vie n'est pas aussi compliquée pour lui qu'elle pourra l'être pour un YouTuber lambda, ou si on transpose
exactement
un podcast, un podcasteur lambda. Et la plupart des gens qui vont nous écouter, c'est pas des gens qui bossent dans des radios privées, dans des radios publiques ou dans des entreprises qui font du podcast et qui ont pignon sur rue. La plupart des gens qui vont nous écouter, je pense, c'est des gens qui font leur podcast et qui se demandent qu'est-ce que veut dire ce genre d'évolution, quelle est la place de Spotify aujourd'hui dans le marché du podcast. Et aujourd'hui, pour ces personnes-là, dont nous faisons partie, ça veut dire aussi qu'on n'aura pas de place dans ce bras de fer-là. On n'aura pas tellement de poids en termes d'influence.
Clairement pas, c'est une bataille de géants. Hein.
Et clairement, se faire sucrer, si tu veux travailler avec leur plateforme, se faire sucrer des revenus publicitaires ou de devoir passer par eux pourraient l'imposer à terme à des gens comme nous. Ça, c'est très clair.
C'est déjà le cas sur YouTube pour les petites chaînes. Ce sera malheureusement à terme le cas pour la plupart des gros distributeurs de podcasts comme Spotify, puisque de base sur YouTube, tu peux ouvrir une chaîne aujourd'hui, faire, je sais pas, quelques vidéos, et pour une raison X ou Y, déjà tu vas prendre des content ID, c'est-à-dire des réclamations disant que le contenu que tu fais, même s'il est 100% original et volé.
Tu commences à en prendre aussi chez Spotify avec des maisons de disques qui disent, mon Dieu, il y a du contenu qui nous appartient là-dedans.
Exactement.
Je viens de voir, littéralement, pendant qu'on a commencé à enregistrer, je leur contacte d'ailleurs à la fin de l'enregistrement avec le compte de la checklist, le thread de PMB de chez nos amis de 2 heures de perdu, qui relève que 2 heures de perdu s'est pris des strikes de Universal Music Group. Donc en l'occurrence, il n'a pas la police aux fesses, mais il a en gros Spotify qui le somme de soit prouver qu'il a les droits, soit Spotify va automatiquement dégager les épisodes en question
Spotify. Oui, c'est ce qu'on appelle DMC en anglais, c'est-à-dire et YouTube le permet à n'importe qui, c'est-à-dire que tu as une petite chaîne YouTube, tu viens de démarrer, comme je disais, tu as ton contenu 100% original avec des musiques libres de droits et le reste.
Ouais.
Moi, ça m'est arrivé pour des trailers, de publicité,
en l'occurrence. Dans le cas de Spotify, c'est les maisons de disques qui sont directement en lien avec
là,
Spotify,
c'est
à ma connaissance, en tout cas, à ma connaissance.
Alors, il n'y a pas que ça. Il existe ce qu'on appelle en anglais du patent trolling, c'est-à-dire du troll de
je
paternité
parle de,
propriété.
Je parle de Spotify.
Je parle de Spotify, ça existe. Ça existe déjà.
Là,
il y a des boîtes, des fausses maisons d'édition, entre guillemets, qui
parlent du domaine de la musique, là.
Oui, mais pour le podcast, tu peux le dire, tu peux le faire complètement et ça va arriver aussi.
Ça peut arriver, mais pour l'instant, j'ai pas vu de cas de figure où c'était arrivé pour des podcasts. Donc c'est pour ça que je cherche à faire la différence. C'est probablement déjà le cas dans le domaine musical où certains doivent essayer d'en faire dégager certains autres pour des raisons pas forcément extrêmement légitimes. Mais j'ai pas entendu de cas de figure où des gens s'étaient fait dégager des podcasts pour des raisons illégitimes. Soyons très clairs, le cas de figure de PMB et de 2 heures de perdu, il est compliqué. Est-ce que 2 heures de perdu est dans son plein droit d'utiliser ces extraits-là ? D'un point de vue strictement légal, la réponse est non. Est-ce que moralement, je trouve qu'il devrait être en droit de pouvoir le faire ? La réponse est oui. Utiliser pour citation, même pour illustration sonore, dans ton petit format qui te rapporte pas grand-chose, voire qui te rapporte rien du tout, j'ai pas l'impression que tu mets qui que ce soit à la rue avec ça. Donc je pense, à titre personnel, que d'un point de vue moral, il est hors de question de casser ce genre de choses, et qu'on devrait ouvrir ces notions de droit d'auteur pour ces cas d'usage-là. Maintenant, il faut reconnaître que d'un point de vue légal, visiblement, universal, jusqu'à la preuve du contraire en tout cas, moi j'ai pas vu exactement quels épisodes étaient dégagés et pourquoi, mais Universal est dans son bon droit, vu que ça semble être un cas de figure où c'est de la musique de film qu'ils ont dû passer dans 2 heures de perdu, qui se fait flaguer maintenant. Et oui, c'est la musique qui est licenciée par l'Universal Media Group, Music Group, pardon. Mais encore une fois, d'un point de vue moral, je trouve que Universal est du mauvais côté de la barrière.
C'est pour ça qu'il vaut mieux auto-héberger ses podcasts et être un petit piratin.
Bah, c'est même pas une question d'auto-hébergement.
Comme ça, on est tranquille. Pour le coup, tu peux prendre un DMC aussi. Hein.
En l'occurrence, encore une fois, c'est pas du DMCA, c'est pas une demande de retrait des internets, c'est juste Spotify qui dit la Major nous a demandé de retirer ce contenu de Spotify. Si UMG veut être plus chiant, ils pourront l'être, mais à ce stade, je n'ai pas vu, parce que c'est arrivé sur un podcast Radio Kawa, je n'ai pas vu UMG aller légalement vraiment emmerder nos amis de chez 2 heures de perdu. On l'évoquera dans le détail si jamais la situation se développe. Là, pour l'instant, on n'a que les informations qui ont été publiées.
C'est le même problème qu'avec Twitch, hein, les replays Twitch qui se faisaient flaguer et qui ont été retirés. C'est le distributeur qui fait le middleman justement là-dessus,
mais ça, c'est
et qui gère.
Ça, c'est une bataille culturelle sur la place du droit d'auteur et sur ce genre de choses. On ne va pas pouvoir s'y plonger là-dedans. Ce sera le sujet d'un épisode suivant, j'en suis quasiment certain, parce que c'est un sujet qui intéresse beaucoup de monde et qui est intéressant également à creuser, justement, vu sa complexité. Pour finir notre panorama sur Spotify, avant de s'attaquer aux abonnements Spotify qui ont été récemment annoncés, j'aimerais relever justement un extrait du communiqué de presse de ces fameux abonnements Spotify qui est sorti donc la semaine dernière, si je ne fais erreur. Un extrait qui montre à quel point, encore une fois, l'ad tech, la distribution publicitaire chez Spotify paraît quelque chose d'assez central et paraît vraiment un outil central pour la monopolisation de cet espace. Je cite donc Spotify sur ce passage. Ouvrez les guillemets, nous pensons que cette technologie va permettre à un plus grand nombre de créateurs de générer un revenu significatif à partir de leur podcast en proposant une offre ayant plus de valeur pour les publicitaires qu'avec les dispositifs actuels pour les podcasts qui utilisent le RSS comme moyen de distribution. Cette initiative amènera plus d'argent et des dépenses plus efficaces dans cette économie au bénéfice des créateurs qui choisiront de se monétiser via la publicité. Fermez les guillemets. Ma réaction par rapport à ça, c'est que Spotify n'avance aucune preuve. Voilà, ça ressemble, jusqu'à la preuve du contraire, ça ressemble, comme le dit Thomas, à un gros mytho. Ça risque d'être l'exact inverse. Et j'aimerais qu'on m'explique comment c'est possible à la fois que les dépenses soient plus efficaces pour les publicitaires et quand même, donc, plus efficaces, ça veut dire toucher plus de monde pour moins d'argent. Et de l'autre côté, pour les podcasteurs, ça va être à leur bénéfice, cette opération-là. Je ne comprends pas comment mathématiquement ça peut fonctionner. Greg, tu voulais réagir?
Oui, mais ça rejoint un peu tout ce qu'on a évoqué justement de ces dernières minutes sur la publicité. C'est que Spotify fout déjà des publicités partout.
Si on n'est pas un abonné payant, ouais.
Si on n'est pas un abonné payant, en effet, où on s'est déjà retrouvé avec des pubs qui n'ont rien à voir, ou moi, ça m'arrive souvent en Belgique de me retrouver avec des pubs en néerlandais, en flamand, alors que certes, je suis en Belgique, mais je suis francophone, j'écoute majoritairement des choses francophones quand je suis sur Spotify, donc je vois pas à ce niveau-là, en quoi ça va permettre en effet une meilleure génération de revenus et un meilleur ciblage. Justement, là, je pense qu'il y a un gros problème à ce niveau-là et que, comme tu dis, il y a zéro preuve. On ne sait pas du tout comment ça va être géré. Et que là, les exemples qu'on a pour le moment ne donnent pas forcément confiance en ce nouveau système qui met en avant pour les publicités. Voilà, comme dit, c'est ça va être plus frustrant, je pense, pour l'auditeur qu'autre chose. Encore plus que pour le podcasteur.
Merci pour cette réaction. Je suis d'accord avec ce que tu viens de dire. Et quand on est d'accord et qu'on n'a rien à ajouter, on fait une transition. Une transition pour évoquer les abonnements Spotify, parce que oui, forcément, il fallait que Spotify réagisse à l'annonce d'Apple. C'était prévu de relative longue date, d'ailleurs, que Spotify fasse un move en direction des abonnements. Donc, on rappelle un abonnement payant que les podcasteurs peuvent proposer à leurs auditrices et leurs auditeurs pour distribuer du contenu premium. Alors, quelle est l'offre de Spotify? À quoi ressemble-t-elle? Et est-elle intéressante pour vous? On va creuser ce sujet désormais. Je vois là, par exemple, que autant tout le monde voulait réagir sur la première partie de l'émission, autant là, tout le monde me laisse hyper tranquille sur cette deuxième. Hein. Ça va être le monologue. Je vous préviens tout de suite, mais vous pourrez quand même... Vous pourrez quand même reprendre des trucs au vol si jamais ça vous intéresse. Donc, tout d'abord, il est question de vendre via des abonnements via Spotify et plus particulièrement via Anchor. Et ça fait toute sa particularité, vous allez voir pourquoi. On va commencer par le nerf de la guerre, c'est-à-dire le pognon et plus précisément la répartition entre les revenus qui iront vers vous, podcasteurs, et vers eux, l'entreprise qui distribue, en l'occurrence Spotify et sa division Anchor. Donc, en 2021 et en 2022, Spotify prendra 0%. C'est leur façon d'être extrêmement attractif, extrêmement agressif de ce côté-là. Et ça reste relativement agressif, en tout cas, en regardant juste cette partie-là du tableau, puisque dès 2023, ce sera 5%. Le piège, c'est que ça ne prend pas en compte la gestion de paiement. C'est-à-dire que toute la gestion de carte de crédit génère un coût. Coût qui est toujours géré d'une manière ou d'une autre. Alors, certaines plateformes le comprennent dans le pourcentage qu'ils prélèvent, d'autres le listent à part. Spotify ne le liste pas, simplement, indique simplement que ce sera Stripe. Ce que j'ai entendu de la part de podcasteurs américains qui ont l'habitude également de travailler avec Stripe sur d'autres projets, c'est que le 5% plus ce que prendra Stripe devrait plus ou moins être comparable à ce qu'on trouve aujourd'hui chez Apple Podcast. Donc, dans les deux premières années, ça risque d'être vraiment agressivement concurrentiel. À partir de 2023, par contre, il se pourrait que ce soit un petit peu kiff-kiff entre Apple Podcast et Spotify du côté de la commission, en cumulant également la part qui est prise par l'entreprise qui va du coup gérer les paiements. Ça, c'est un premier point.
C'est pas très étonnant pour le coup, parce que Stripe est très 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 populaire aux États-Unis en général, et notamment auprès des développeurs qui doivent intégrer des solutions comme ça. Et du coup, par contre, tu disais, ça va faire à peu près la même chose que Apple, mais Apple, c'est bien 30% la première année et 15% ensuite, c'est ça ?
Oui, et je précise encore une fois, parce qu'il y a beaucoup de confusion à ce sujet, on parle d'année par abonnement, c'est-à-dire que si tu es podcasteur et que tu proposes ton podcast depuis plus d'un an, ça ne descend pas à 15%. Ça ne descend à 15% la part que prend Apple uniquement si l'individu reste abonné plus de 12 mois.
D'accord, donc c'est OK.
C'est pas très généreux. Oui, c'est comme ça qu'on peut le dire.
C'est pas très généreux.
Ils se servent largement, et c'est au cœur justement du projet entre Epic et Apple. Mais c'est un autre sujet.
Et pour le coup, après, par contre, je trouverais ça bizarre quand même que Stripe prenne 25% de commission.
25, non, 10 ou plus selon les cas. Oui,
je pense à peu près 10, ouais, on va dire.
Ouais. Bah, suivant les territoires, suivant les types de moyens de versement également, ça fluctue et j'imagine que ça pourra atteindre quelque chose de supérieur. Ah, donc encore une fois, dans certains cas de figure, clairement pas dans tous, mais dans certains cas de figure, Apple pourrait être concurrentiel par rapport à Spotify si on regarde uniquement la question de la commission et des frais qui partent ailleurs que dans votre poche. Évidemment avant taxe, mais ça c'est relatif à tous les revenus MDR. Parlons maintenant des différents modèles. Ce qui est listé pour l'instant sur le blog de Spotify, c'est deux modèles principaux. Premièrement, de proposer des versions sans pub d'épisodes existants. On pense notamment aux radios publiques, encore une fois, les suspects habituels du monde américain, notamment le réseau de radios publiques NPR, est évidemment à l'appel, répond à l'appel, proposera ses podcasts en version sans pub sur les abonnements Spotify, et également de l'autre côté, la possibilité de distribuer des contenus en mode épisode abonné uniquement, c'est-à-dire des épisodes exclusifs que vous allez, dans un podcast déjà existant, distribuer en petit bonus. Et là, ça répond vraiment, on en parlait déjà à l'épisode 1, vis-à-vis d'Apple Podcast, au modèle où des podcasteurs ont un Patreon et un flux public. Dans le flux public, ils mettent des épisodes complets de temps en temps, des teasers, des versions payantes de l'autre. Ça permet de streamliner un peu plus ce genre de distribution-là. En tout cas, c'est ce que Apple et Spotify, pour le coup, ont en tête avec ce genre de modèle. Greg, tu voulais réagir ?
Non, okay. J'acquiesce.
Tu acquiesces, mais j'aime quand on acquiesce, ça me fait plaisir. Autre chose, Spotify liste directement les tarifs auxquels les podcasteurs peuvent régler les différents contenus premium, et donc en l'occurrence $3 par mois, $5 par mois, $8 par mois. Je parle de dollars et vous allez vous dire, mais Yann, mais qu'est-ce que ça donne en euros, qu'est-ce que ça donne en francs suisses, qu'est-ce que ça donne en pesetas?
Il n'y a que toi qui se demande en francs suisses.
Eh bien, oui, mais je m'écoute, donc je me demande aussi. Eh bien, sachez que pour l'heure, les abonnements Spotify ne sont réservés qu'aux États-Unis. Et c'est aussi pour ça qu'on a collé dollars dans un move très Google, pour le coup. Le service ne va être disponible que pour les Américains dans un premier temps, et même encore plus limité que ça, que pour des partenaires de Spotify dans un premier temps. Et ensuite, ça s'ouvrira aux noms partenaires et au-delà du territoire américain au fil du temps. On suivra ça dans la checklist podcast. Autre chose très intéressante, il est impossible de devenir un abonné payant d'un de ces podcasts-là, donc distribué par Anchor Spotify, dans l'application Spotify. À cause notamment des règles de l'App Store d'Apple, puisque ils ne veulent pas donner 30% à Apple. Donc il faut passer par le web, un peu comme Netflix. Il faut aller faire son petit abonnement sur le web.
Et ça, tu vois, je pense que c'est le truc principal qui fait que ça va pas marcher. Ouais. Parce qu'en fait, déjà Spotify, c'est nul, déjà de base. de base, en termes d'application, c'est nul.
Tu vois, dis je sais ça, mais toutes les personnes qui ont le confort d'écouter leur podcast et la musique dans la même application, et il y en a, des gens comme ça pensent pas pareil. Mais je suis d'accord avec toi. Moi qui aime beaucoup les podcasts et qui aime beaucoup certaines fonctionnalités de mes apps de podcast, je trouve que la façon dont fonctionne Spotify pour les podcasts est insupportable.
Voilà. Mais en plus, tu vois, il faut, genre, je sais pas, tu découvres un podcast au pif, on te dit, ah, il faut que t'ailles machin. Il faut que tu te souviennes de ton compte, il faut que tu te connectes. Si t'as pas de compte Spotify, tu te tapes de la pub vraiment toute nulle, etc., etc. Et après, mettons, tu te dis, putain, ça, c'est vraiment, vraiment un bon podcast, j'ai envie de soutenir. T'es obligé de quitter l'app pour aller sur le site, pour payer. Et t'es là, genre, waouh, c'est quand même, la croix et la bannière pour juste écouter un fichier audio quand même, hein.
Ouais, ouais, ouais.
Je vais peut-être me faire l'avocat du diable sur ce point-là, mais le souci, c'est que justement, les personnes qui soutiennent déjà les podcasts sont déjà pas très nombreuses, de toute manière. Si tu dis aux personnes dans ton podcast, si vous voulez nous soutenir, vous n'allez pas sur Patreon ou autre, vous allez sur Spotify et vous nous donnez 5$ par mois ou 8$ par mois, je pense que ces personnes le feront de toute manière.
Oui, mais en fait, t'as aucune raison de faire ça, puisque de toute façon, tu perds de l'argent. S'ils te prennent 15 à 30%, autant dire, bah non, restez sur Patreon, puisque là, eux, ils ne prennent que 5%. Donc, en fait, ça n'a
d'un point de vue économique, c'est vraiment, en fait, voilà, ce que vend Apple et ce que veut vendre Spotify, c'est un aspect pratique, c'est déjà inclus dans l'app. Mais dans le cas de Spotify, c'est un peu plus compliqué. C'est un concurrent à Patreon, mais bizarre.
En fait, le truc, c'est que si on veut que ça marche, il faut que l'expérience d'achat soit meilleure, en fait, que par exemple Patreon, où t'es obligé d'aller sur un site, créer un compte, trouver le machin, etc., etc. Donc, pour le coup, Apple, ils sont très bien positionnés là-dessus, puisqu'ils prennent eux-mêmes la commission, tout est intégré directement dans l'app. Mais pour le coup, avec Spotify, tu ne verras aucun créateur dire « Allez sur Spotify, vous abonnez pour 5€ par mois pour que j'en touche 1€ puisque Apple aura pris 30% et machin aura pris 30%. » Enfin, et le seul moyen pour que ce soit pratique à utiliser, ce serait que Spotify accepte de laisser sa part à Apple. Donc du coup, c'est imbécile en fait comme situation, en tout cas sur iOS.
Juste un truc, on parlait de Spotify et on parle de l'influence de Spotify sur l'écosystème ouvert du podcast. Il faut bien préciser un truc qui me paraît hyper important par rapport à ça, et quand on voit Spotify faire ce genre de move et en même temps faire des moves monopolistiques, on est très inquiet sur l'avenir de l'écosystème ouvert du podcast. Ce qui est en danger, c'est pas l'existence de l'écosystème ouvert du podcast, parce que tant qu'il y aura un podcast qui se distribue en RSS publiquement et une application pour le lire, il y aura toujours un écosystème, même si c'est d'un podcast et d'un auditeur. Ça, c'est pas un problème. La question, c'est quelle est son importance et quel est l'effet de la perte d'importance prévisible de l'écosystème ouvert du podcast sur notamment le prix de la pub pour ceux qui la gèrent directement et qui peuvent en tirer quelque chose de plus que les autres. Enfin, il y a plein de conclusions, il y a plein d'effets possibles qu'on peut deviner à une perte d'importance de l'écosystème ouvert du podcast, et c'est ça qui est en jeu pour le coup. Et ce qui est intéressant avec, t'as raison de le souligner Thomas, c'est qu'avec son modèle un peu casse-figure, il faut se lancer dans une autre application, en l'occurrence un navigateur, pour pouvoir s'abonner. Ben, pour le coup, c'est pas une bonne concurrence d'un point de vue technique ou d'un point de vue d'ergonomie par rapport à l'écosystème ouvert du podcast, où il faut passer par peu importe quelle solution a trouvé le podcasteur, que ce soit Patreon ou autre chose, pour créer un modèle de soutien. Donc là, pour le coup, j'ai un peu moins peur, c'est vrai. Greg, on t'a interrompu.
Non, mais sur cette question-là, j'ai quand même du... Je pense que malgré tout, il y a une possibilité pour les créateurs de se dire, vu qu'il y aura 0% de commission et 5% de commission, d'aller plus vers Spotify, même s'il y a cette difficulté de l'abonnement qui doit être mis en place à côté de iOS ou autre chose. Moi, je pense que avoir en effet la situation avec Android, comme tu l'évoquais, Yann, Mais malgré tout, vu que ça concerne peu de personnes, je pense que ça peut être intéressant pour les créateurs, mais voilà.
En fait, côté auditeur, l'enjeu avec Spotify, ça n'a jamais été... On ne le savait pas au moment où Spotify s'est lancé dans le podcast, mais on s'en rend un peu plus compte aujourd'hui quand on commence à voir des statistiques sortir. Ça n'a jamais été le possible public qui quittait son application de podcast favorite pour aller sur Spotify. C'est marginal, ça, pour le coup. Ce qui est important, c'est le nouveau public qui découvre le podcast via Spotify parce qu'il utilisait Spotify pour la musique, qu'il soit abonné payant ou non, et qu'il a vu graduellement les podcasts arriver ou qu'il a entendu parler des podcasts et que, concomitamment à ça, il a vu les podcasts arriver dans son interface Spotify. Il s'est mis à écouter The Daily s'il est américain, à Code Source du Parisien s'il est français, etc. etc. Ou le point J de la RTS s'il est suisse. Vous pouvez faire toute la liste si vous voulez. Pour le coup, là, c'est ce public-là, en fait, qui est entre guillemets la cible de ce move-là, qui est le public qui ne sait pas faire autre chose que Spotify pour les podcasts, et donc qui va passer par la solution de paiement de Spotify, même si elle est compliquée, parce que c'est la seule chose qu'il connaît. Et à ça, il y a deux choses, à mon avis, qui sont intéressantes. Premièrement, si vous, en tant que podcasteur, vous comptez utiliser ça, peut-être faites, vu que vous n'avez pas d'exclusivité à garantir à Spotify sur les contenus, c'est la même chose pour Apple Podcast, les abonnements Apple Podcast payants, vu que vous n'avez pas d'obligation d'exclusivité à donner à Spotify, eh bien, vous pouvez tout à fait dire et informer vos auditeurs de ce choix-là et de dire on a aussi un Patreon, vous pouvez donner par là, ça nous rapporte plus, on peut se faire une plus grande marge dessus, etc. etc. C'est aussi à vous, du coup, à jouer ce rôle d'éducation-là que ces auditeurs n'ont pas par rapport à ces différents modèles. Alors évidemment, en rendant ça le plus lisible possible, malgré le côté très complexe de l'affaire, je m'en rends bien compte, hein, mais c'est pour dire que le nerf de la guerre là-dedans, c'est clairement les nouveaux auditeurs, le fameux, moi j'ai remarqué sur un des podcasts Radio Kawa qui est encore sur Spotify et qui est en même temps disponible en RSS, sa part d'écoute en RSS sur le flux public, enfin du côté du public n'a pas baissé, par contre je vois bien 5-10% de gens en plus être apparus par Spotify et ça c'est une question hyper intéressante sur qu'est-ce que devient ce public, par exemple si Spotify décide de refermer son écosystème, encore plus qu'il ne l'est aujourd'hui. Et deux, imaginons que Spotify arrête le podcast parce que ça leur coûterait trop d'argent, ça leur reviendrait pas assez et leur stratégie de monopolisation marche pas. Où ira ce public ensuite ? Ça, ce sera une belle question aussi.
Une autre question que je me pose, et à mon avis, ceux-là sont posés aussi chez Spotify, c'est que justement, en tout cas, moi, c'est la vision que j'ai de Spotify, c'est un supermarché où tu peux prendre de tout. Et on te le met, entre guillemets, à la suite, que ce soit de la musique ou même des podcasts. C'est-à-dire, tu peux grignoter de tout, on te le met sur un plateau. Apple Podcast, c'est un peu plus toi qui dois choisir. Il y a moins cette opulence qui t'est amenée sur un plateau. C'est plutôt toi qui dois aller rechercher et qui dois mettre les podcasts. Alors que Spotify fait directement des recommandations et des recommandations et des recommandations.
Avec des playlists intelligentes, avec la page d'accueil qui te propose automatiquement des contenus, alors que du côté d'Apple Podcast, c'est éditorialisé dans un espace exploré, mais c'est pas ta première page. Ta première page est libre de ça. Et justement, à ce titre-là, ta première page est plus respectueuse de l'écosystème ouvert et du côté un petit peu, on te force pas du contenu à travers la gorge, que Spotify. Ça peut changer, ça va peut-être même probablement changer parce que j'imagine qu'ils vont chercher à mettre en avant ces contenus payants et qu'ils vont utiliser toutes les techniques possibles pour le faire. Mais à ce stade, c'est pas encore le cas.
Et du coup, je pense que chez Apple Podcasts, il y a plus, entre guillemets, cette envie de soutenir un podcast que tu vois plus souvent sur ta page d'accueil ou que tu écoutes plus souvent qu'un cas de Spotify où tu vas plus écouter beaucoup de choses, mais tu n'auras pas forcément ce lien de fidélité avec un podcast.
Oui.
C'est en tout cas une vision que j'ai.
C'est le sous-produit de l'interface telle qu'elle. Après, encore une fois, je miserai des copecs sur le fait qu'Apple Podcast tende à ressembler à la page d'accueil de Spotify, à l'écran d'accueil de Spotify d'ici quelques mois ou années.
Ok.
Parce que ce sera pour eux un moyen de pousser des abonnements. Et on sait qu'Apple est très agressif quand il est question de pousser des abonnements. On le voit avec Apple Arcade, avec Apple One, avec... on n'a pas Apple News Plus chez nous, mais vous voyez l'idée, quoi. Apple TV Plus. Ils adorent faire ça parce qu'il faut préciser aussi que pour toutes ces sociétés-là, le revenu d'abonnement, c'est la panacée pour faire monter les revenus au global. C'est là où il y a le plus de croissance en ce moment. Donc, comparé au paiement à l'acte. Donc, clairement, C'est quelque chose qu'ils cherchent à maximiser de toutes les manières possibles. Et on va arriver à un point où ça ne va plus marcher. On va arriver à un point où les gens n'auront plus de pognon à mettre dans des abonnements, que ce soit des abonnements pour accéder à des applications, des abonnements pour accéder à des jeux, ou des abonnements pour accéder à du contenu média tel que de la vidéo à la demande, du podcast, etc. etc. Donc on va voir les limites de ça, et le fait que le podcast s'y lance aussi, alors que c'est une industrie beaucoup moins importante que le jeu vidéo, les applications type Microsoft Office ou les trucs type Netflix, on va vite voir, je pense, les limites de ce modèle-là, d'un point de vue macroéconomique vraiment large. Après, il y aura toujours des bonnes surprises et des contenus sur abonnement qui vont percer, mais largement, ça risque de pas être un énorme marché. Thomas.
Non, puis soyons sérieux, je veux dire, Je peux comprendre l'idée, genre, oh, tu es en train d'écouter, j'en sais rien moi, le dernier Lady Gaga, et puis tu te dis, ah tiens, j'écouterais bien un podcast. Bon, déjà, je sais pas qui fait ça, mais ok. Mais contrairement à YouTube, où c'est de la vidéo, où il y a une notion vraiment de montage vidéo, vraiment, etc. Je pense que même s'il y a énormément d'affect qui peut arriver dans le podcast, je ne vois pas Spotify réussir, tu vois, à engranger des vues, engranger des écoutes plutôt pour le coup, comme YouTube arrive à engranger des vues tout simplement parce que c'est pas aussi séduisant ni captivant. Tu vois, je vois pas. J'imagine qu'un jour tu vas commencer par un épisode de 2 heures de perdu et puis si tu laisses tourner Spotify trop longtemps, tu finiras chez Joe Rogan où il invite un néo-nazi. Donc il y a forcément un truc comme ça qui va se passer, comme sur YouTube. Mais je crois beaucoup moins en fait à cet effet justement tunnel où tu en commences un et tu ne t'arrêtes jamais. Déjà parce que tout simplement c'est de l'audio quoi. Tout
c'est
simplement,
lié à la durée de production aussi, hein, Thomas.
Aussi, oui.
Des vidéos
aussi.
YouTube, le formatage est de 10 minutes en moyenne. 10-12 minutes pour être en captation.
C'est un très bon point. C'est un très bon point ce que tu dis.
Oui, mais alors. Le podcast va durer 30 minutes, 40 minutes, 1 heure, 2 heures, 6 heures.
N'oublie pas justement toute cette industrie du podcast qui s'est notamment créée en France à partir des années 2015-2016 et qui s'est illustrée par la création de contenus très courts. Tu regardes par exemple Choses à savoir. Je crois que la signature de Choses à savoir, c'est des contenus qui font 2-3 minutes.
Mmh. Oui, voilà, c'est des contenus de 3 minutes. Après, est-ce que tu arrives à avoir un éditorial conséquent sur 2-3 minutes? Non, sur 2. À la différence, enfin, en 2-3 minutes, tu regardes n'importe quelle vidéo YouTube de 2-3 minutes, c'est des extraits, c'est des trucs extrêmement courts, c'est pas du contenu éditorialisé où on va pouvoir développer un sujet de A à Z. Pour une vidéo, on parlait de Linus tout à l'heure, une vidéo de Linus, elle dure en moyenne 10-12 minutes.
Et puis surtout, est-ce que les thumbnails de Spotify, elles existent? Moi, ce que je suis impatient, c'est de voir les thumbnails YouTube dans Spotify.
Excusez-moi, on va globalement avoir le clickbait, il n'est pas forcément aussi facilement transposable, et je crois que c'est pour ça que Franck souligne justement cette incompatibilité. Mais pour le coup, il est vrai qu'il y a un fossé culturel entre deux approches du podcast, une approche très industrielle qui est là pour maximiser des écoutes et qui est là, en gros, on va faire du contenu, d'abord, c'est notre raison d'être, et ensuite, on va essayer de faire quelque chose de fun ou d'intéressant. Et de l'autre côté, des approches plus indépendantes pour la plupart, où la logique, c'est on va faire le truc qui nous fait kiffer, et si ça a un public, voire si c'est monétisable, tant mieux, mais c'était pas le but premier. Et ensuite, évidemment, t'as plein de cas qui sont hybrides. C'est un continuum, évidemment. Mais il y a ces deux pôles-là. Et ce qui est intéressant, c'est que autant j'aime beaucoup parler du podcast parce que je pense que c'est un aspect très important. Un podcast en termes de moyens, en termes de limitations techniques, enfin de limitations techniques, de structuration technique, le flux RSS, l'application podcast, les fichiers MP3, de bien rappeler que le podcast, c'est ça, c'est une façon de distribuer du contenu. Mais quand on parle des podcasts en tant que contenu, on a la même dichotomie entre ces podcasts-là, ces podcasts conversationnels assez longs, parfois plus amateurs ou plus du domaine du loisir, du temps libre, il est vrai, et de l'autre côté, d'autres productions qui viennent justement de ces sociétés qui ont été créées par, dans plein de cas, d'anciens de la radio, d'anciens de la télé, d'anciens du monde de la pub, d'anciens du monde de la com, qui sont plus limités en termes de temps, qui ont d'autres axes, qui ont d'autres objectifs, qui ont un objectif entrepreneurial beaucoup plus important derrière, et qui rappelle un petit peu la guéguerre entre les youtubeurs et les late night sur YouTube. Les youtubeurs qui ont mal vécu non seulement l'arrivée des late night avec leur popularité, mais aussi le fait que YouTube les mettait particulièrement en avant, les favorisait du point de vue de l'algorithme. Parce que c'est des cash machines pour qui pour YouTube, pour la plateforme. Donc, ce conflit-là, qui est à la fois un conflit culturel et industriel, je pense qu'on va le voir de plus en plus grandir. Encore une fois, je reprends la salve de tweets de PMB, de l'équipe de chez Deezer de Perdu. Je trouve qu'il souligne ça, je le prends vraiment en direct, parce que c'est tombé, encore une fois, pendant qu'on enregistrait, mais je trouve que ça, c'est totalement, comment dire, c'est totalement dans cet état d'esprit-là. Il dit notamment... La révolution podcast a bel et bien eu lieu et a laissé place à un écosystème ultra saturé. J'ouvre une appli, il y a 35 nouveaux podcasts inspirants de marques médias journalistes. J'espère que ceux qui sont venus pour faire de la moula ont réussi à en faire. Ils sont responsables de cette transformation et doivent maintenant attendre patiemment au cœur de cet Eldorado fatigué et ultra concurrentiel de se faire racheter par une plateforme. Je saute un tweet. Dans le fond, le podcast est un marché comme un autre, sujet au capitalisme qui est maintenant sous la bonne emprise des plateformes. Ils sont venus, ils ont cassé notre jouet, mais... ça ne nous empêchera pas de continuer à jouer avec. Fin de citation. Je trouve que ce que dit PNB est, mais d'une clairvoyance totale.
Tout à fait. Clairvoyance, ça fait, c'est pas comme si ça faisait 6 ans désormais, puisqu'on est en mai 2021.
Franck, déjà, premièrement, ne soyons pas pédants. Et deuxièmement, je trouve qu'il arrive à résumer en peu de mots ce qu'on a pris des années à dire.
Il résume très bien. Ce que je veux dire par là, c'est qu'ils étaient, ce que je veux dire par là, c'est...
Est-ce qu'on l'a vu venir? La réponse est oui, on en parle depuis 2015.
Aussi, non, mais eux aussi, c'est pas
eux
clairvoyant.
Aussi,
c'est,
pour
c'est,
le coup, le tweet eux n'est aussi pas sont railleurs aussi, sur le sujet depuis 2015.
Voilà, c'est ça. Le tweet n'est pas clairvoyant. Le tweet est une très bonne conclusion de leur part. Eux qui ont, avec nous, parce qu'on en avait parlé avec eux à l'époque aussi, prévenu que les plateformes allaient plus ou moins tenter de s'accaparer l'existence du podcast par le nom, par une certaine manière de produire,
par son économie,
le podcast, par son économie évidemment, puisque c'est le but était de faire de l'argent, ce qui est pas mal en soi, c'est la manière dont l'argent est redistribué qui est un problème. Après, comme ils le disent, on continuera à jouer avec, puisque tant que le flux RSS existe, ils ne peuvent rien faire, et c'est pour ça que des acteurs comme Spotify et comme d'autres s'intéressent à la destruction du flux RSS, ou à du moins
en réduire l'importance.
Rendre illégal.
Pas forcément le rendre illégal, encore une fois, ça j'y crois pas beaucoup. On pourrait revenir sur cette théorie qui est tienne et qui n'est clairement pas mienne dans un prochain épisode. On a déjà dépassé de loin la durée, on a encore des choses à dire. Mais pour le coup, je trouve en tout cas que oui, réduire son importance, ça c'est un risque, on l'a évoqué plus tôt. Ceci étant, sur les abonnements Spotify, entre guillemets paradoxalement, Spotify et Anchor font preuve d'ouverture sur deux points que j'ai trouvé assez intéressants, qui n'étaient pas d'ailleurs clairs spécifiquement au moment de l'annonce, et c'est un papier de The Verge qui m'a aidé à un peu mieux comprendre ce qu'ils voulaient dire en des termes un petit peu couverts. Premièrement, il est possible de s'abonner au contenu payant, donc Spotify et Anchor, via des flux RSS privés dans d'autres applications que ceux de Spotify. Si vous payez, justement, vu que toute la transaction a lieu en dehors de l'application Spotify, vous pouvez aussi emporter votre flux RSS et le lire dans Overcast, dans Pocket Cast, dans Podcast Addict, dans l'application de votre choix, comme un flux RSS généré pour un abonné sur Patreon. Et ça, c'est assez intéressant. Ça ne change en rien le fait que les exclusivités Spotify sont toujours exclusives Spotify. Joe Rogan, vous ne pouvez toujours l'écouter que sur Spotify. Mais pour ces contenus payants, où Spotify à terme va prendre 5%, il est possible de les écouter ailleurs également. Deuxième point, l'inverse est également plus ou moins techniquement prévu. Un système qui ressemble, alors j'ai utilisé un terme que je ne comprends pas forcément et que Thomas connaît mieux que moi, un système proche de l'OAuth.
Ah oui, d'accord.
Tu vois ce que ça veut dire? Tu peux nous expliquer du coup ce que c'est?
C'est un système d'authentification.
Voilà, donc l'idée, c'est que...
C'est un système d'authentification, en fait, je dirais, pour l'expliquer simplement, un peu décentralisé, c'est-à-dire que tu... à partir du moment où tu es logué à ce système, si je me souviens bien, quand tu arrives sur des sites qui supportent ce système, tu es déjà pré-logué. Je crois que c'est quelque chose comme ça.
Donc l'idée, très simplement, est que votre login, par exemple, imaginez que... Ce n'est pas le cas, mais imaginez que Blueprint, qui édite ce podcast, édite une version premium de la checklist podcast, avec encore plus de rent de Franck, par exemple. Ce serait un perk, ce serait un bonus premium à ajouter au truc. Et vous propose un couple login mot de passe pour votre contenu abonné. On distribue ça nous-mêmes avec nos propres outils. On pourrait s'intégrer à Spotify et faire en sorte que ce couple login mot de passe, vous pouvez l'utiliser dans Spotify pour importer ce contenu dans votre application Spotify, puisqu'on le rappelle, l'application Spotify ne permet pas de s'abonner à un flux RSS directement, il faut qu'il soit dans le catalogue. Donc il faut que le créateur l'ait proposé à Spotify. Donc de cette manière-là, Spotify s'assure le cas de figure où, même si vous avez un contenu payant qui est ailleurs, par exemple sur Patreon, si Patreon décide de participer à ce programme, donc qui s'appelle le Spotify Open Access Platform, ou OAP pour faire court, on a les abréviations des trois dernières lettres, enfin des premières lettres, des trois derniers mots, ce système-là permettrait justement d'écouter ce contenu que vous payez sur Patreon en premium dans votre application Spotify. Donc de loin, ça a l'air chouette. De loin, on se dit, tiens, ils trouvent des solutions pour que non seulement le contenu payant que eux vendent, on puisse l'écouter ailleurs, et qu'en même temps, le contenu payant qu'on achète ailleurs, on puisse l'écouter dans Spotify. Et c'est vrai que, vu de loin, Spotify fait par exemple mieux que Magellan version 1, non seulement en proposant justement ses contenus payants ailleurs que dans leur application propriétaire, et de l'autre côté, permet aussi d'écouter de ces contenus-là sans avoir à les ajouter au catalogue et à les rendre gratuits et publics aux autres, ce qui serait une catastrophe pour les gens qui vendent du contenu via une autre plateforme. Malgré tout, on revient sur le problème principal qui est celui de Spotify veut devenir l'endroit où vous écoutez vos podcasts et votre musique tout le temps. Donc en fait, surtout le deuxième point, c'est un bon moyen pour Spotify de s'assurer que même si tu as un contenu qui n'est pas dans Spotify, tu l'écoutes dans Spotify. Et de continuer à concentrer les auditeurs pour encore une fois devenir, essayer d'obtenir cette masse critique qui vont lui permettre de gérer le marché, d'avoir un poids disproportionné sur le marché. Thomas, tu voulais réagir?
Encore une fois, on en revient au truc, c'est tout comme YouTube veut que vous passiez votre vie sur YouTube, tout comme Facebook veut que vous passiez votre vie sur Facebook, Spotify veut que vous passiez votre vie sur Spotify. C'est aussi simple que ça, puisque plus vous restez, plus il y a des chances que vous vous abonniez, plus si vous vous abonnez pas, de toute façon, vos données d'écoute, de géolocalisation, de qui vous êtes, de vos goûts, sont envoyées à des gens que vous ne connaissez pas et que vous n'aimez pas. Et voilà, donc c'est aussi simple que ça, en fait. On en revient de toute façon à la stratégie qui est de, comme on dit en anglais, embrace, extend et extinguish, qui est donc embrasser, étendre et exterminer, qui en gros, on prend quelque chose qui existe, on l'étend en donnant plus de fonctionnalités, en tout cas c'est ce qu'on dit, et plus d'options, et ici par exemple ça va être la monétisation, des choses comme ça, et puis à la fin on ferme tout, puisqu'on est tout seul, on a gagné, et tous les gens qui veulent travailler, qui veulent faire en dehors, et ils peuvent pas à cause de la masse critique, qu'ils loupent en passant à côté de ce système. Donc voilà,
c'est clairement une possibilité, c'est clairement un risque avec Spotify.
Exactement. C'est pour ça que d'ailleurs, en ce moment, toi, moi et d'autres, on travaille sur des solutions alternatives de mise en place de podcasts, techniquement parlant, qui seraient aussi faciles que d'héberger un petit site web ou quelque chose comme ça. Parce qu'en fait, à un moment donné, il faut aussi voir rendre à Spotify et à Apple ou à d'autres ce qui est à eux. C'est que beaucoup de gens utilisent ça, ces systèmes, pour la simple raison qu'il y a une interface graphique, que c'est facile à utiliser, à mettre en place, et puis que c'est populaire, tout simplement aussi.
Et donc, à nous de trouver des solutions encore plus avantageuses et encore plus pratiques pour tout le monde.
Il faut qu'on paye les gens avec l'argent de Blueprint pour qu'ils aillent pas sur Spotify.
On a déjà donné beaucoup de conseils aux podcasteurs au fur et à mesure de ce dossier. Quelques conseils maintenant, je pense, pour les auditrices et les auditeurs qui nous écoutent et qui se disent comment est-ce que je peux au mieux soutenir les podcasteurs. Très simplement, et l'écosystème ouvert du podcast d'ailleurs, utilisez des applications de podcast qui n'appartiennent pas aux trois gros, c'est-à-dire Apple, Google et Spotify. Donc ça peut être un Podcast Addict, ça peut être un Overcast, ça peut être il y en a plein, honnêtement, un Pocket Cast. Allez voir, les listes sont énormes. N'importe quelle application qui permet de manger du RSS, ça fonctionne bien et ça aidera, parce que ça participe simplement à la fragmentation de l'espace et à faire en sorte qu'un monopole n'émerge pas, ou un duopole n'émerge pas non plus, et c'est malheureusement le risque avec la petite guéguerre entre Apple et Spotify, mais bon, l'avenir nous dira exactement comment ça va évoluer. Et d'autre part, si vous souhaitez financièrement soutenir les podcasteurs, choisissez toujours l'option avec le moins d'intermédiaires. L'option qui est la plus directe vers le créateur est toujours la meilleure. Parce que non seulement ça garantit le fait qu'une plus grande part de votre pognon finit dans leur poche, mais en plus, ça garantit aussi le fait que ces intermédiaires-là n'aient pas un contrôle disproportionné sur les créateurs eux-mêmes. C'est vraiment ces deux tableaux-là, et un simple choix comme celui de savoir où est-ce qu'on va donner sa maille, et vu la création justement de ces différentes méthodes de soutien via Apple, via Spotify, et également celles qui existent déjà aujourd'hui de Patreon, Memberful et d'autres, vont chez vous créer un choix. Vous allez vraisemblablement pouvoir soutenir votre podcasteur préféré de plein de manières différentes. Et ben, celle qui est la plus directe est toujours la meilleure. On va, si vous le voulez bien, s'attaquer un petit peu au suivi et au courrier. Tu sens que c'est tout de suite un peu plus zen. Le courrier, on n'en a pas. N'oubliez pas, vous pouvez nous envoyer des courriers lacheckliste@blueprint.pm ou @lacheckliste sur Twitter. Du coup, un petit peu de suivi par rapport à l'épisode précédent. Tout d'abord, une nouveauté sur iOS 14.5. C'était pas tout à fait clair. C'est de nouveau notre ami James Creedland de PodNews qui a relevé ce lièvre. Apple Podcast dans iOS 14.5 contient un énorme changement dans la façon dont fonctionne l'application, puisque non seulement le store, ça c'était déjà le cas, mais en plus, quand vous êtes abonné, désormais, vous ne parlez plus, vous n'allez plus directement chercher les nouveaux épisodes en tapant dans le RSS qui est hébergé sur le site du podcasteur, mais dans le RSS qui est en cache chez Apple Podcast. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que plein d'applications font comme ça. Overcast faisait déjà comme ça, en mettant en cache le flux RSS, ce qui permettait justement d'éviter de matraquer une seule URL, l'URL en l'occurrence du flux RSS, avec des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers d'utilisateurs qui essaient d'écouter un podcast, de voir s'il y a un nouvel épisode. C'est un compromis pour éviter que ce soit un peu trop violent, notamment par rapport aux hébergeurs des podcasts qui ont le plus d'abonnements. J'ai eu une petite discussion, un petit back and forth avec, je crois que c'est Puff qui est à la tête du compte Twitter de PodCloud, qui expliquait qu'il voyait là un bout de fermeture de l'écosystème ouvert du podcast. Je suis pas tout à fait d'accord avec lui sur la question du caching des flux RSS. Je sais pas si vous êtes plutôt d'accord avec lui qu'avec moi sur le sujet, mais ça me gêne pas tellement, c'est une solution technique. Tant que c'est bien le RSS qui est pingé et qui n'est pas transformé derrière par Apple ou par Overcast ou par un autre, à titre personnel, ça me gêne pas tellement en fait. Si personne n'a d'avis, on va passer à Macromorse, le site internet dédié à l'actualité d'Apple bien connu, qui relève quelque chose qui semblait déjà un peu clair de loin, mais là ils ont compilé pas mal de retours pour relever le fait que, ben oui, hein, Apple Podcast sur iOS 14.5, ça déconne pour beaucoup d'utilisateurs, pour beaucoup d'auditrices et d'auditeurs de podcasts, comme quoi, si jamais vous avez des problèmes à récupérer des épisodes, si vous avez des problèmes avec l'application, c'est normal, c'est juste que l'application n'est pas parfaite et sera vraisemblablement corrigée bientôt. Donc il faut le relever. En tout cas, Apple considère que le problème était côté serveur et qu'ils l'ont réglé, que la panne a duré entre le 29 avril et le 3 mai. Est-ce qu'il y aura de nouveau des pannes? Est-ce qu'il y aura de nouveau des soucis techniques avec cette application? On verra bien. Auquel cas, il y aura un correctif. Reste donc que c'est une petite affaire à suivre, mais que le lancement d'Apple Podcast, la nouvelle version, a non seulement été rock'n'roll du côté des créateurs avec Apple Podcast Connect, mais aussi du côté des auditrices et des auditeurs. Voilà pour ce petit constat. La Checklist Podcast, c'est fini pour aujourd'hui. Je l'ai déjà dit tout à l'heure, on est @lacheckliste sur Twitter, mais aussi checklistpodcast.fr sur le web. Le site a été indisponible à cause d'un petit souci de SSL. J'ai envoyé un email à notre hébergeur et on aura ça de rétabli bientôt. On utilise un prestataire externe pour ça, vu que c'est un tout petit site, donc ça déconne un petit peu. Par contre, les pages d'épisodes de la Checklist Podcast, le podcast, sont sur blueprint.pm, et ça, par contre, c'est, il n'y a pas eu de problème technique, c'est toujours disponible. On a là, par contre, Mathieu, qui est notre hébergeur du feu de Dieu, tout fonctionne bien, il fait tellement bien son travail, quant à lui. J'attends vos messages à lacheckliste@blueprint.pm pour y répondre ou pour les poser à mes petits camarades, que ce soit en réaction au sujet de l'épisode d'aujourd'hui ou pour toute autre chose, allez-y. N'hésitez pas, merci à Julien et Vito du groupe Magoyonde pour l'habillage de cette émission. Ils viennent de sortir un double vinyle qui est disponible sur magoyonde.com, donc n'hésitez pas. Allez soutenir avec vos espèces sonnantes et trébuchantes. La Checklist Podcast, c'est un podcast Blueprint et on en fait plein d'autres. Greg, tu fais la tête dans le guidon.
La tête dans le guidon qui a sorti récemment un nouvel épisode avec Alana Castri, championne de Belgique de cyclisme, une des seules wallonnes du peloton. Donc voilà, on a discuté une bonne demi-heure avec elle. C'était à écouter sur blueprint.pm.
Eh ben vous respectez la demi-heure. Nous, on a fait une heure. Terrible. Terrible. Franck, Tech Two, on a reçu Caféine, le monsieur de Geekzone.
Tout à fait, nous avons parlé des dernières annonces Apple, de la conférence d'Apple d'il y a maintenant 10 jours. Et on est revenu sur les nouveaux produits Apple présentés lors de cette conférence et on a discuté un peu plus de l'avenir d'Apple, notamment au sujet des futurs processeurs Apple Silicon qui vont évoluer bientôt et on espère les voir très bientôt, notamment peut-être à la WWDC qui aura lieu en juin.
Début juin et on aura début un
épisode. Apple va mourir, Apple va mourir.
C'est comme Nintendo. C'est terrible. Hein.
Comme Nintendo et Sony.
Ils n'ont pas du tout fait un exercice fiscal absolument incroyable l'année écoulée. C'est délirant. Et le trimestre écoulé aussi. Et d'ailleurs, Thomas, ce n'est pas un podcast Blueprint ou peut-être juste à titre honorifique. Bagro Point, vous avez parlé de quoi dans le dernier podcast de Bagro Point ?
Oula, alors il y en a un nouveau qui devrait pas tarder à arriver.
Mais tease-nous alors. Tease-nous sur le nouveau.
Un podcast d'actu, ce sera le pif de l'actu.
Notre donc je vais le monter.
Donc tu vas le monter, effectivement, oui. Donc non, bagropoint.fr, n'hésitez pas à aller nous lire, nous écouter. C'est sur le jeu de baston, notamment si vous êtes dans la section podcast et que vous sélectionnez le podcast, parce que notre podcast principal s'appelle le podcast.
Mais
on
oui.
a très bien notre nom. Vous trouverez une super série sur le jeu vidéo, sur l'histoire du jeu de baston. Donc l'histoire de séries aussi connues que Street Fighter, Mortal Kombat, Tekken, Killer Instinct ou des trucs moins connus comme World Heroes par exemple. Donc voilà, n'hésitez pas à aller nous écouter et puis voilà, tous les trimestres environ, on fait un podcast d'actu dans lequel on refait évidemment l'actu mais aussi des chroniques. Il y a des chroniques, souvent on s'attarde sur des sujets un petit peu plus différents, on va dire, dans le jeu de baston. Je pense que toi qui nous montres, tu dois apprendre des choses un petit peu étonnantes. La dernière fois, on a parlé, par exemple, de l'implication, de la possible implication de l'Arabie Saoudite dans la société SNK qui édite le jeu King of Fighters, Samurai Shodown, etc., etc. Puisque ils sont devenus majoritaires, c'est le genre de choses qu'on n'entend pas trop parler généralement dans le jeu de baston. On ne parle que d'e-sport et de choses comme ça.
Mais c'est bien les podcasts, voilà. Ça permet de traiter les sujets de niche, c'est cool.
Exactement. Nous, on s'amuse bien, en tout cas depuis 10 ans, à parler de jeux de baston. Donc, n'hésitez pas à venir nous écouter.
Eh ben, merci à tous les trois. On vous retrouve également sur Twitter. Les bons liens pour vous suivre sont sur la page de l'épisode. Quant à moi, vous m'entendez dans Tech2 avec Franck et dans La Cartouche avec Lou. Le podcast revient jeudi prochain. N'hésitez pas à vous abonner à la Checklist Podcast pour plus d'épisodes dans ce genre. Et à bientôt. Ciao, ciao.
C'était la Checklist Podcast sur Blueprint.